Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh. Radio X.
Quoi de mieux de décompresser de cette grosse semaine que vous avez eue à l'écoute de Choix 98.1 Radio X en ce vendredi 20 septembre 2024. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous qu'on installe maintenant depuis 5 émissions, les Radio X Files avec vous pendant 60 minutes jusqu'à 20h30. Bonsoir Christian!
Bonsoir Camille!
Tu vois, ça a été une grosse semaine pour moi, j'imagine que côté aussi.
Oui, c'est vendredi pour tout le monde.
On va décompresser, on va faire une revue de l'actualité ensemble et on est de retour dans la thématique qu'on a installée sur les ovnis. Et pour lancer le bal ce soir, tu veux nous parler du nouveau directeur du All Domain Anomaly Resolution Office, l'ARO, mieux connu sous l'acronyme ARO.
Oui, et d'ailleurs, on a l'habitude de débuter l'émission avec des petits extraits audio.
Audio, oui! Oui, mais là,
dans ce cas-là, comme dans l'enveloppe d'introduction de l'émission, on entend ces pilotes sur des F-18 qui disent « Ah, voilà, on a vu l'objet, puis il va à contre-le-vent ». En fait, c'est un extrait audio d'une des vidéos, des trois vidéos qui avaient été rendues publiques en 2017. Par le biais de la... En fait, c'était pas la US Navy. En fait, c'est un type qui s'appelle Luis Elizondo et qui avait réussi à... qui avait travaillé quelque part, là, on reviendra là-dessus, mais qui avait été proche, en fait, de l'enquête sur les ovnis menée par le département de la Défense et qui avait laissé couler ces fameuses vidéos. Et là, donc, on entend ça. Et comme on va beaucoup parler de ça, ben, je me suis dit, ça ne me donne rien d'en rajouter puisqu'on en a déjà dans l'introduction de l'émission un extrait de ces fameuses vidéos. Cela étant, oui, effectivement, ce soir, une grande partie de l'émission va être consacrée à l'ARO, parce que il y a en fait l'ARO de manière directe et indirectement, parce que c'est les nouvelles tournent autour de cet organisme étatique mis en place en 2022 par le département de la Défense pour enquêter sur les ovnis. Et la première nouvelle, comme tu le dis, c'est le nouveau directeur de l'ARO. Hein, en français, c'est le Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Et il faut savoir qu'on en a parlé à plusieurs reprises ensemble de ce bureau qui a été mis, je le répète, en 2022 suite à plusieurs tentatives qui étaient plus ou moins heureuses. Hein. La question des ovnis a comme un peu rebondi entre les mains du département de la Défense aux États-Unis, bien sûr, en 2020. D'abord, ça avait commencé en 2017 avec un article qui avait dans le New York Times qui avait révélé que, contrairement à ce que maintenait le département de la Défense, la question des ovnis n'avait pas été entièrement enterrée en 1969, hein, parce que les Américains ont mené de 1947 à 1969 une enquête soutenue sur la question des ovnis qui a duré 22 ans, qui a changé de nom en cours de route. Au départ, ça s'appelait le projet Science, c'est devenu le projet Grudge, ensuite le projet Blue Book. En 1969, le département de la Défense a fermé ses livres en disant, ben voilà, après 22 ans d'enquête sur les ovnis, on n'a rien trouvé là-dedans qui justifie de maintenir un service. Les trois grandes conclusions étaient, un, aucune de ces observations ne semble ou n'a menacé la sécurité nationale. Point numéro deux, rien ne permet de croire que ces engins soient d'une technologie extraterrestre ou quoi que ce soit. Et la troisième position était qu'il n'y avait pas un intérêt soutenu à poursuivre l'investigation sur ce phénomène des ovnis. Donc, à partir de là, le sujet était un peu tombé dans l'oubli ou laissé entre les mains d'organisations privées qui s'intéressent à la question des ovnis. Mais pour le département de la Défense, c'est un peu une politique à la Ponce Pilâtre. Je m'en lave les mains. T'sais.
Mais comme le cycle de la mode, ça revient toujours à un certain moment donné. Il y a eu un engouement de retour.
Donc, notre Ponce Pilâtre a dû à un moment donné faire face à nouveau à la réalité. Donc, on a appris par cet article en 2017 que le département de la Défense n'avait pas entièrement enterré la question des ovnis. À quelques reprises, de 1969 jusqu'aux années 2000, lors d'observations très particulières. Et là, encore une fois, quand je dis une observation particulière, ça ne force pas de croire aux visite extraterrestre, là, mais on comprend si des gens dans une base militaire ont observé des lumières qu'ils n'ont pas été en mesure d'identifier au-dessus, par exemple, d'installations de missiles intercontinentaux, bien évidemment, ça suscite un questionnement. Si ce n'est pas des extraterrestres, qui est-ce? Est-ce des Chinois? Est-ce des Russes? Est-ce la Corée du Nord?
Ouais.
Donc, on veut savoir. Donc, à quelques reprises comme ça, le département de la Défense a été amené à enquêter sur des observations d'OVNI, mais rien de très soutenu. Et l'article en 2017 révélait que la seule initiative assez étoffée, hein, je vais me dire ça entre guillemets, assez étoffée qui avait été menée, c'était entre 2007, grosso modo, 2007, 2008 et 2012. Donc, durant cette période-là, 4 ou 5 ans, le département de la Défense avait alloué un budget de 20 millions de dollars. Quand on sait, là, je tiens à rappeler que le budget annuel du département de la Défense aux États-Unis, c'est 750 milliards.
C'est
j'ai
énorme.
J'ai dit des milliards, là. 750 milliards. Donc, on comprend que 20 millions sur 4 ou 5 ans, c'est de la menue monnaie au fond d'une poche, là. On voit que c'était un projet vraiment d'étude qui était très secondaire. Sinon, on aurait investi beaucoup plus de sous là-dedans. Mais bon, on a investi comme ça 20 millions. Et ce bureau, parce qu'on va en revenir, pourquoi je passe par ce détour, parce que je vais revenir à cette époque, en fait.
Il y a des liens à faire avec...
Oui, c'est ça. Okay. Donc, à cette époque, le bureau, évidemment, avait pas ne s'appelait pas LARO. Hein. À cette époque, le bureau était Bureau d'identification des menaces aériennes avancées. C'était le nom qu'on lui avait donné, là, ATIP, là, c'était l'acronyme. Et ce bureau-là, donc, a œuvré pendant 4 ou 5 ans, et puis après ça, l'intérêt s'est encore une fois dilué. Et on n'en a pas reparlé. Donc, l'article en 2017, lorsqu'il paraît, l'article du New York Times paraît, bien évidemment, le public américain et puis ailleurs, on est un peu surpris d'apprendre que le gouvernement américain a quand même maintenu un certain intérêt pour la question des ovnis. Et on apprend également par cet article que plusieurs de ces observations impliquaient des militaires, notamment des militaires de la US Navy, qui en 2004 avaient été confrontés à toute une série d'événements un peu de type ovni alors qu'ils procédaient à des manœuvres au large de San Diego, en Californie. Et c'est là qu'arrivent ces fameuses vidéos là, dont on entend un peu un extrait en début d'émission de Radio X-Files. Donc, et à ce moment-là, comme l'intérêt a été soulevé à nouveau, le public, évidemment, parce que le Congrès américain repose un peu sur l'intérêt du public, hein, il met les sous là où le public a envie qu'on mette les sous. Hein, on le voit d'ailleurs avec la campagne électorale. Hein, chacun des candidats, que ce soit Donald Trump ou que ce soit Kamala Harris, ont choisi de parler des sujets qui intéressent le public, hein, parce que c'est ça qui est porteur. Donc, comme le public semblait avoir un nouvel intérêt pour la question des ovnis, puis là, on se disait, ben c'est beau, mais dans les années 60, l'armée nous disait que les gens qui voyaient des ovnis étaient toujours des gens qui avaient un peu forcé sur la bouteille, ou l'agriculteur au milieu de nulle part qui voyait des lumières au-dessus de son champ. Et là, on apprend que des militaires entraînés ont été confrontés à des phénomènes comme ça. Donc, on voudrait avoir des réponses, et c'est là que le gouvernement va essayer de mettre en place, ça a été un peu boiteux au départ, ça s'est appelé Bureau des ovnis, mais ça n'a pas très bien fonctionné. D'un côté, il y avait la US Navy qui voulait s'en occuper. D'un autre côté, il y avait le département de la Défense, l'US Air Force. Et puis, éventuellement, en 2022, on est arrivé avec une formule plus aboutie, qui est le fameux Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Et le premier directeur de LARO, c'est un type qui s'appelait Sean Kirkpatrick, qui était un scientifique qui avait travaillé notamment pour le département de la Défense et la Space Force, hein, cette sixième force de l'espace mise en place là, sous l'administration de Donald Trump pour développer une force militaire capable d'intervenir dans le cas éventuellement d'un conflit spatial. Quand on parle de conflit spatial, je tiens à préciser, là, c'est pas un conflit avec les extraterrestres.
Et c'est pas Star Wars, là.
Non, c'est pas Star Wars, mais on comprend que de plus en plus maintenant, avec l'avancement des technologies, on sait qu'on est capable de placer, par exemple, des satellites hypersoniques en orbite basse pour l'envoyer sur une cible. Donc, on doit développer des mécanismes de défense, des mécanismes de détection et des mécanismes d'interception. Et ça, c'est le travail de cette force spatiale parce que, malheureusement, il faut bien le dire, la prochaine guerre mondiale va se jouer à la fois sur Terre, mais elle va également se jouer dans l'espace. Donc, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Donc, Sean Kirkpatrick avait travaillé notamment, c'est un spécialiste notamment des missiles intercontinentaux, il avait travaillé sur des mécanismes de balistique, il a travaillé il avait été très impliqué dans le développement de cette sixième force. Et puis donc, c'est lui qui a hérité d'être le premier directeur de l'ARO. Et assez curieusement, donc en décembre de l'an dernier, donc on parle de décembre 2023, après à peine 18 mois au bureau, il a participé à deux représentations au Congrès notamment, où il a parlé, il a établi l'ARO, il a établi également quelles étaient les priorités de l'organisme. D'ailleurs, c'est assez amusant ici, je me fais un petit aparté, je sais que j'en fais souvent des petits apartés.
J'adore les parenthèses.
Mais la parenthèse, c'est amusant de voir à quel point le discours entre le discours officiel et le discours des amateurs d'OVNI, même si on utilise les mêmes mots, on ne veut jamais dire la même chose.
Okay.
Et je m'explique. Quand tu lis les communiqués officiels, par exemple, l'ARO utilise l'expression « panne hein? ». Un panne qui veut dire un phénomène aérien non identifié. Mais dès qu'on lit le document, ou on lit entre les lignes, pour les gens de l'ARO, un panne, un phénomène aérien non identifié, on n'a pas besoin de faire un gros effort intellectuel pour comprendre qu'il parle possiblement d'avions ou de drones de forces étrangères comme la Russie ou la Chine. Et quand tu lis le discours des amateurs d'OVNI, pour eux, panne, dès qu'on lit entre les lignes, ça veut toujours dire engin volant extraterrestre. C'est curieux, des deux côtés, on utilise le même discours, mais on n'a pas une même lecture du mot panne. Enfin, et c'est d'ailleurs un peu, et j'allais te dire, et rappelle-toi l'an dernier, quand en décembre 2023, donc après 18 mois, Sean Kirkpatrick a annoncé, ça a surpris tout le monde d'ailleurs, il a annoncé son départ de l'ARO. Il disait, bon, ben voilà, j'avais pris le mandat de mettre sur pied l'organisme, établir les rouages et éventuellement sa relation avec d'autres organismes étatiques, donc militaires ou autres, notamment l'aviation civile, évidemment les forces armées, mais également avec l'aviation civile. Et on sait qu'il y a eu également des ententes entre le bureau ce bureau de l'ARO et la NASA qui avait annoncé qu'elle voulait aussi mettre l'épaule à l'ARO pour venir donner un petit coup de main à leurs collègues du département de la Défense. Donc, Kirkpatrick annonce son départ. Il dit « J'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je quitte. » Mais il y avait quand même un aspect un peu nébuleux de pourquoi il quittait précipitamment et si rapidement. Et rappelle-toi, on avait fait une émission, on était en décembre l'an passé, j'avais annoncé justement le départ de Sean Kirkpatrick et je t'avais dit, parce que je m'inspirais d'une présentation publique qui avait été tenue quelques mois plus tôt par la NASA, et la NASA avait fait une présentation donc devant des représentants de la presse, des représentants gouvernementaux, et la NASA avait dit, avait commencé c'était assez étonnant d'ailleurs, les premières minutes de sa présentation, les dirigeants avaient particulièrement insisté sur les insultes qu'ils recevaient par courriel, etc. Puis en disant, nous n'accepterons pas des insultes, des calomnies, tu sais, bon, nous on est là pour faire un travail, puis notre travail c'est celui de la science, puis on essaie d'appliquer la science, puis ceux qui veulent croire aux petits hommes verts et autres, c'est votre affaire, mais nous on n'a pas à endurer vos insultes. Et je t'avais annoncé, en m'inspirant de cette réponse-là, je t'avais dit, regarde bien ça, je serais pas étonné d'apprendre dans les prochaines semaines que Kirkpatrick en a eu plein de pompons de se faire insulter par les amateurs d'extraterrestres.
Non, ça a eu à un moment donné. Là.
Exactement. Bon, là, t'as beau dire, ça me touche pas, mais tu sais, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Quelques semaines après son départ, il a publié d'abord sur son site personnel une longue lettre, et après ça, il s'est exprimé dans les médias, il a donné quelques entrevues, justement pour dénoncer cette situation, hein, cette espèce d'intimidation qui est faite par les croyants extrémistes, hein, je ne veux pas les mettre, les gens qui s'intéressent aux ovnis ne sont pas tous comme ça, là, heureusement, mais il y a un noyau de gens, comme dans l'univers de la politique, hein, il y a des gens qui sont extrémistes, et à un moment donné, même si tu dis « ça ne vient pas me rejoindre », ça te rejoint pareil. Moi-même, au Québec, là, il y a une trollée d'ufologues là, qui m'écrivent, m'envoient des mots, des insultes. J'ai beau dire que ça ne me rejoint pas, mais quand t'en reçois 50... Là,
à un moment donné, ça peut tilter.
C'est correct. Mais bon, et très souvent, on voit que ça frise littéralement la maladie mentale. Donc, je comprends que Sean Kirkpatrick, qui avait eu une carrière tout à fait noble, disons ça comme ça, une carrière particulièrement noble et riche également au sein des forces militaires, avait probablement pas envie de finir avec les insultes et avoir à se battre contre l'ignominie de ses fanatiques de la soucoupe volante. Donc, il a quitté. Maintenant, il travaille pour un laboratoire de recherche scientifique aux États-Unis, au Kentucky, puis au Tennessee, pardon. Et puis, bon, c'est parfait comme ça. Le laboratoire de Oak Ridge, qui d'ailleurs, le laboratoire d'Oak Ridge qu'on a parlé il y a un mois, parce que c'est le même laboratoire qui a fait la fameuse analyse sur le petit morceau qu'on nous disait être un morceau de soucoupe volante qui s'est révélé finalement un morceau d'alliage utilisé dans le domaine de l'aéronautique là, dans les années 70. Donc, Sean Kirkpatrick est allé rejoindre ce groupe de chercheurs au laboratoire d'Oak Ridge. Et là, donc, il avait laissé le poste vacant qui avait été assumé par un intérim. Et là, voilà qu'on nous annonce, il y a quelques jours, la nomination d'un nouveau directeur à l'ARRO. C'est un dénommé John Koslowski. Et ce John Koslowski, lui aussi, a un CV qui est particulièrement impressionnant. Il a été longuement attaché à la direction de la recherche, à la NSA. La NSA, je rappelle que l'acronyme veut dire National Security Agency. Lequel acronyme, faut le dire, dans les années 70 ou 80, était souvent décrit comme étant « no such agency hein? ». Parce que quand on demandait au gouvernement américain « qu'est-ce que c'est que la NSA » ou « que fait la NSA », ben, on disait que cet organisme-là n'existait pas, hein, que ce bureau-là n'existait pas.
En fait, parce c'est qu'on le cachait?
Oui, c'est ça. C'était le bureau, c'est le bureau secret du top secret. Là. La NSA, c'est ce qu'il y a de plus haut.
T'sais. Donc, dire que ça n'existe pas, c'est de le garder secret.
Oui, ouais, c'est ça. On voulait garder ça secret. D'ailleurs, la NSA, c'est l'un des offices, un des bureaux pour lesquels travaillait Snowden. Hein, quand il a quitté, par exemple, là, pour dire, ben voilà, quand Edward Snowden avait dénoncé le programme Echelon, ce programme d'écoute et de surveillance, ben, il était orchestré, en fait, par différentes agences, incluant notamment la NSA et la CIA. Donc, notre nouveau directeur, M. Koslowski, il a travaillé longuement à la direction de la recherche pour la NSA. Il a travaillé principalement sur le réseautage informatique qui était lié aux agences de renseignement pour le département de la défense. Donc, on comprend bien que tout ça fonctionne, tous ces organismes-là de renseignement américains travaillent tous, évidemment, en réseautage. Et l'un des responsables du réseautage était ce monsieur Koslowski.
Oui, c'est autant dur à écrire pour le trouver sur Google que...
John Koslowski. Il est diplômé en mathématiques et en physique de l'Université de Californie et en engineering de la... très réputé John Hopkins University. Oh. Il a travaillé également pour l'Institut national des standards et des technologies. Donc, c'est l'organisme qui détermine, par exemple, si on décide de construire un bâtiment, quels sont les standards pour le béton, quel est le standard pour le métal. Donc, ce sont tous des gens qui sont spécialisés dans différentes sphères d'activité de l'ingénierie. Et il a donc longuement travaillé pour cet organisme-là. Et on apprend donc... en même temps, bon, c'est un individu très compétent, aussi compétent que l'était sans aucun doute Sean Kirkpatrick, parce que Sean Kirkpatrick, je dois t'avouer que moi, j'étais très content quand on l'a nommé, parce que j'avais, pour différentes raisons, comme je m'étais beaucoup intéressé au domaine de l'aéronautique, son nom m'était passé sous les yeux à quelques reprises, et c'était un individu dont on ne disait que du bien, hein, de sa compétence, son professionnalisme, et j'étais très heureux de savoir que Sean Kirkpatrick avait été nommé à la direction de l'ARRO. Et là, sa démission, son départ m'avait un peu chagriné, mais là, à lire, je ne connais pas ce John Koslowski, mais à lire un peu son CV, sa feuille de route, ben, j'ai l'impression qu'il est la bonne personne à la bonne position. Et on aura probablement la chance de l'entendre prochainement parce qu'on a annoncé au cours des derniers jours qu'il y aurait... bon, personnellement, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, il y aurait au cours des prochains jours, sinon des prochaines semaines, de nouvelles auditions au Congrès américain sur la question des ovnis. Donc, une réunion bipartite, comme il y en avait eu l'an passé, qui avait beaucoup fait parler d'elle.
Qui est arrivé à un résultat qu'on connaissait déjà.
Oui, mais on se rappelle aussi que cette réunion, l'an dernier, avait mis notamment sur la sellette des gens comme David Grush qui avait raconté on a récupéré des ovnis, des extraterrestres. Et d'ailleurs, j'avais assisté, puis j'en suis encore traumatisé, j'avais assisté à la plus absurde des démonstrations, c'est d'entendre David Grush dire aux gens du Congrès, vous savez, parce que c'était 6 personnes qui étaient là, hein, on dit le Congrès, il faut quand même dire, il faut préciser, là, le Congrès, c'est 450 personnes, donc Donc, c'est une réunion à six. C'est pas tout à fait le Congrès, là, mais bon. Enfin, c'est six représentants du Congrès qui s'assoient pour écouter des gens qui ont des choses à dire. Et c'est pas forcément parce que tu passes une audition du Congrès que ce que tu as à dire est très intéressant et pertinent. Je l'ai déjà évoqué. Raël a déjà été déposé au Congrès.
Ben bon, oui. Là. Les archives sont assez hallucinantes aussi.
Ouais, c'est pour voir Raël qui parlait du clonage des bébés, là. Bon. Fait que c'est ça. Bref, quand il y avait eu cette réunion l'an dernier, ben, ça avait mis David Grush et j'avais été un peu. Bon, il y avait six représentants, mais sur les six représentants, il y avait un démocrate et cinq républicains. Et il y avait eu des envolées là, des représentants du Congrès. Là, M. Burchett, par exemple, du Kentucky, nous a sorti un paquet d'âneries. Mme Luna, au milieu de la conversation, qui se met à reparler de Roswell. Et à un moment donné, après que David Grush ait eu dit que le gouvernement américain tuait des gens pour protéger des secrets sur les ovnis, ben, moi, j'essaie de m'imaginer que si j'étais un représentant du Congrès puis que j'avais entendu quelqu'un dire ça, j'aurais dit « c'est beau, mon petit bonhomme ». Mais après ta déposition, là, on va aller dans une salle ici à côté. Là. Tu connais des gens qui ont été assassinés, qui ont été intimidés, qui ont été tués par le gouvernement. Ben, dans toutes les. C'est illégal. Donc, quand on va sortir de la salle ici, là, juste au bout, là, il va y avoir deux, trois représentants. Il va y avoir des marshals, des shérifs. Il va y avoir également des agents du FBI. Tu vas lui donner le nom des gens qui ont fait ça, puis on va les arrêter, puis on va les mettre en prison. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais non, on voit M. Burchett, Mme Luna et compagnie qui se mettent tous à applaudir avec un sourire à faire frémir Pepsodent.
Tu sais. Ça devient des téléréalités.
Oui, tu dis, ben, je suis donc ben niaiseux, c'est bon. Puis évidemment, on sait qu'éventuellement, après ces déclarations au Congrès, on avait demandé des comptes à l'ARO. M. Grush, puis je ne veux pas trop revenir là-dessus, mais M. Grush avait dit notamment que c'était confié à l'ARO, mais que l'ARO n'avait pas pris ses déclarations, n'avait pas vraiment voulu l'entendre. Puis il avait également même laissé sous-entendre qu'il ne s'était pas vraiment épanché non plus trop avec l'ARO, parce que l'ARO n'avait pas, et je le cite, hein, il n'avait pas l'habilité, hein, la credential, là, l'habilité gouvernementale pour accueillir ces déclarations. Or, on sait, évidemment, après cette déclaration au Congrès, les gens du Congrès ont demandé des comptes à l'ARO. Et là, on a vu apparaître dans les semaines qui ont suivi que non seulement Grush avait menti sur toute la ligne, non seulement on a enquêté, on n'a rien trouvé, on n'a trouvé aucun élément de ce qu'il a raconté. Et ensuite, on a découvert que depuis le début, l'ARO avait une lettre du département de la Défense qui l'autorisait à accueillir n'importe quel témoignage à n'importe quel niveau d'accréditation. Donc là, Grush nous a joué du pipeau. Puis quand il a dit j'ai essayé de parler avec l'ARO, mais l'ARO n'était pas intéressé, Sean Kirkpatrick, avant de démissionner de l'ARO, avait rendu public l'ensemble de tous les courriels qu'il avait eus avec David Grush. Et à plusieurs reprises, c'est plutôt Grush qui ne retournait pas les appels. Même on a un courriel dans lequel des gens de l'ARO se plaignent à David Grush en lui disant: vous nous aviez fixé rendez-vous, on est allé à l'hôtel, puis on a poireté pendant 45 minutes dans le hall de l'hôtel, puis vous ne vous êtes jamais représenté. Tu sais. Fait que bon, faut quand même. Mais bref, tout ça pour te dire que j'ai l'impression que c'est un peu des séances plénières qui ne font pas vraiment avancer les choses.
Ben, je te pose la question, je me permets de la poser. Est-ce qu'il y a un intérêt scientifique et on va dire impartial d'inviter ces gens-là, ou il y a un aspect de code d'écoute qu'on prend un petit peu en considération? Tu sais, on veut qu'il y ait quand même un certain « show » entre guillemets, ou c'est trop protocolaire pour qu'on pense à ça?
Non, t'as tout à fait raison. Moi, j'ai l'impression que les représentants, les gens se font un show de ça.
OK.
En tout cas, c'est mon impression. Tu sais, on n'a jamais autant parlé autant de Mme Luna ou de Burchett. Puis là, Burchett est comme devenu une vedette. Là, il passe en plein. Avant, quand on le rencontrait, c'était pour parler des républicains. Puis là, maintenant, quand on le rencontre, c'est pour qu'il parle des républicains. Puis il manque pas une tribune pour aller également parler des soucoupes volantes puis des extraterrestres. Mm. Donc, moi, je pense qu'il y a probablement un agenda politique derrière ça. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que toutes les déclarations. Il y a eu ça coûte des sous, ça, là. Ça mobilise du temps. Puis là, on écoute un individu comme David Grush qui nous raconte ses bobards. Là, on met des gens à investiguer là-dessus, des gens de l'ARO qui auraient pu mettre leurs efforts ailleurs pour finalement découvrir que c'est un dead end. Partout où ce qu'on est allé vérifier, on n'a pas trouvé de gens qui avaient été tués par le gouvernement. On n'a pas trouvé de multinationales dans le domaine de l'aéronautique qui ont été impliqués dans de la rétro-ingénierie sur des soucoupes volantes. Il n'y a pas de traces de crash d'OVNI, d'extraterrestres qu'on a récupéré. Là, je sais que les amateurs d'OVNI diront, ben ouais, mais tu sais, c'est le complot, puis on nous cache tout ça. Mais ça, le complot, c'est, si on tombe là-dedans, on peut croire au Père Noël, au Farfadet, puis à l'usine des jouets, là. On peut tout croire, là, tu sais. Fait qu'on n'a rien trouvé de ça, pas la moindre preuve de ça. Et qui plus est, on apprend que David Grush a menti à la fois sur ses soi-disant rencontres avec le gouvernement, avec les membres de la RO, et également sur ses motivations de ne pas aller donner des noms ou des informations à la roue. Donc, et là, tu te dis, mais pourquoi qu'on fait ça? Là, Mme Luna, encore cette charmante Mme Luna de la Floride qui nous avait si habilement glissé à Roswell dans sa dernière présentation au Congrès, nous a annoncé cette semaine qu'il y aurait à nouveau une réunion au Congrès, une représentation au Congrès pour parler encore une fois des ovnis, du travail de Laro. Donc j'imagine que ça sera pour nous l'occasion de voir M. Koslowski à l'œuvre, puisqu'il sera certainement sur la sellette pour venir donner un compte-rendu de là où se trouve, à quel point on est rendu maintenant les recherches sur la question des phénomènes aériens non identifiés au sein de la route.
Préparez votre pop-corn?
Ah ouais, préparez votre pop-corn. Donc sur ce pop-corn, nous, on va prendre une petite pause et quand je vais revenir, ben, je te parle du livre très attendu de Luis Elizondo qui a été publié il y a quelques jours maintenant, qui s'appelle Imminent. Et ce Luis Elizondo, ben, maintenant qu'on a parlé un peu de tout un peu cet historique allant de l'ETIP à l'ARO, là, ces différents organismes mis en place par le gouvernement américain pour enquêter sur les ovnis, on va être en bonne... La table est mise, justement, pour parler de ce livre Imminent de Luis Elizondo. Je t'en parle après la pause.
De retour dans quelques minutes ici même sur Radio X.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission, et effectivement, on a mis la table en discutant avant la pause du nouveau directeur du bureau de l'ARO, Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Et Christian va nous parler de la sortie d'un livre qui est, écoute, d'entendre parler d'un ex-agent de contre-espionnage du gouvernement qui sort un livre. Les mêmes me frottent ensemble, Christian. J'ai l'impression que ces gens-là ont tellement de choses à amener dans leur tombe parce que dans leur tête, il y a des classeurs protégé A, protégé B, des choses qu'ils peuvent pas dire, là. Si t'avais un CV à faire de cet individu-là, qui est Luis Elizondo?
Je pense que s'il y avait des secrets, en tout cas, il les a pas mis dans son livre.
Non,
il
hein?
Il dans sa tombe. Bon, ce Luis Elizondo, écoute, d'abord, le titre de son livre s'appelle Imminent, hein, imminent. Et quand moi, je me suis commencé à m'intéresser aux ovnis dans les années 70, l'une des premières choses qu'on m'avait dit, c'est la révélation est pour bientôt, c'est imminent.
Oh,
bon,
okay.
Ça fait 50 ans plus tard, et le imminent est toujours imminent, puis ça n'arrive pas. C'est bon. Donc, l'idée de Luis Elizondo d'utiliser un titre comme celui-là, dans le sens, on est à la veille de la révélation.
OK, c'est vendeur, moi,
fait...
là.
Ouais, c'est ça, mais moi, ça fait 50 ans que la révélation, on l'annonce chaque jour, tu sais, puis elle n'arrive pas. Donc, ce Luis Elizondo, il a un CV qui est assez ambigu. C'est-à-dire que tu as mis la table, c'est vrai qu'il a travaillé avec les services de renseignement, tout ça, c'est un, entre guillemets, un agent du gouvernement.
Bon,
il a été un agent du gouvernement. Là où ça devient plus problématique, c'est lorsqu'il commence à parler de son lien avec les ovnis. À l'en croire, et là je le mets entre guillemets, à l'en croire, hein, il a longtemps dit qu'il était le directeur de l'ATIP. L'ATIP, c'est ce petit programme qu'on a parlé un peu plus tôt dans l'émission, qui s'est tenu entre 2007 et 2012, hein, dont l'acronyme voulait dire en français Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées. Donc, il dit qu'il était le directeur de cet organisme-là. Et c'est un peu à travers lui, ce Luis Elizondo, qu'on a appris l'existence de ce programme un peu marginal. Et il a été l'une des sources premières de l'article de 2017 dans le New York Times qui a relancé l'intérêt pour la question des ovnis. Maintenant, à savoir quel était vraiment le rôle de Luis Elizondo, là, c'est plus ambigu parce que les démarches qui ont été faites auprès du gouvernement ne semblent pas supporter ce que lui dit. D'abord, il faut savoir que ce programme ATIP, hein, ce programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, était plutôt un programme parallèle qui n'était pas vraiment un programme du département de la Défense. On a appris ça. Hein. Quelque part, là, au milieu des années 2000, donc comme je l'ai mentionné, entre 2007 et 2012, un représentant du gouvernement américain, un élu, un dénommé Harry Reid, qui représentait le Texas. Il dit voilà, j'ai des amis, et entendre par ses amis un type qui s'appelle Robert Bigelow. Puis Robert Bigelow, c'est un géant, ça, il a fait fortune dans le domaine, dans l'industrie hôtelière, mais il s'est lancé dans le domaine de l'aérospatiale. Ce Robert Bigelow s'intéressait beaucoup à toutes les histoires un peu étranges, loups-garous, monstres, ovnis et tout le reste. Et Robert Bigelow, il avait acheté un ranch, hein, dans un ranch que l'on disait le théâtre de phénomènes tout à fait mystérieux, qui s'appelle qu'on appelait le Skinwalker Ranch. Il y a même une émission de télé où le nouveau propriétaire maintenant essaie d'entretenir le public en disant il y a des affaires bizarres qui se passent ici.
Des traces dans les champs de maïs, sans dire, c'est
ouais,
tellement
c'est
stéréotypé.
Ça, des vaches qui se font mutiler, puis des petites lumières qui passent dans le ciel. Mais bon, bref, Robert Bigelow, c'est un type qui s'intéressait à ces sujets-là, en dehors et à titre personnel. Hein, ça, il n'a pas fait fortune là-dedans. Comme j'ai mentionné, il a fait fortune dans le domaine de l'hôtellerie. Il s'est lancé dans l'aérospatial et son rêve, c'est éventuellement de combiner les deux, de créer un hôtel spatial. Hein, donc, un peu comme une station orbitale, mais qui pourrait être visitée par des touristes. Donc, Harry Reid, au milieu des années 2000, dit à des collègues au Congrès, ben, ce serait intéressant si on investissait un peu d'argent pour faire de la recherche, hein, hypothétiquement, hein, réfléchir sur l'invisibilité, réfléchir sur la téléportation, réfléchir sur le moyen de peut-être aller plus vite que la lumière. Des sujets qui sont purement théoriques, là. Et c'est là que l'AETIP est né. Donc, autrement dit, le département de la Défense ont écouté Harry Reid, puis ont dit ah, « Ce que tu dis, c'est intéressant. C'est vrai qu'on pourrait regarder ça de notre côté, mais nous, on n'a pas le temps de le faire. On n'a pas de gros budgets alloués à ça, mais si tu veux, ben voilà 20 millions, puis occupe-toi de ça. » Et c'est comme ça que l'AETIP est né. Donc, autrement dit, c'est un programme qui était parallèle, une sous-traitance. Tu vois un peu ce que... Si on essaie de prendre l'exemple, ce serait une espèce de sous-traitance dont a bénéficié Robert Bigelow, parce que tu comprends, cet argent-là est directement tombé dans les poches de Bigelow. Donc, pendant 4, presque 5 ans, Bigelow a bénéficié de ces 20 millions pour entreprendre avec des amis, des collègues, des réflexions théoriques sur est-ce qu'on peut être visité par des extraterrestres, est-ce que l'invisibilité est possible, et essayer de tirer au maximum de l'information qui pourrait être qualitative sur les observations d'OVNI qu'on rapportait à gauche à droite. C'était surtout ça, AETIP. Et on ne sait même pas, hein, d'ailleurs le département de la Défense a été précis là-dessus, hein, lorsque toute cette histoire-là est sortie au grand jour, le département de la Défense a bien précisé que AETIP n'était pas un programme à encadré à l'intérieur du département de la Défense, mais plutôt une espèce de sous-traitance qui relevait de réflexions d'ordre théorique sur différents sujets.
Financé.
Voilà. Et quant au rôle de Luis Elizondo, ben on sait pas trop. Étais-tu le directeur? Étais-tu pas le directeur? Étais-tu le numéro 2, le numéro 3? Parce que au moment où on se parle, il y a 3 personnes qui réclament être l'ancien directeur de l'été.
Ah,
bon.
Okay. Fait
que, visiblement, les gars, vous devriez vous parler en coulisses parce qu'on s'entend pas bien. Mais bon, bref, on sait que quelque part, Luis Elizondo a été au sein de cet organisme-là. Quel a été son rôle? Bon, jouons le jeu, puis croyons qu'il en a été le directeur.
On va dire qu'il était le majoritaire, période. Le directeur
ouais,
majoritaire.
Bon, c'est ça. Il devait être l'investisseur, ouais, comme tu dis. Bon, maintenant, cela étant dit, on sait qu'il a été proche de cette situation-là. Et donc, on a tendance à dire ben, ce qu'il dit doit être crédible. Sauf qu'il y a quand même des... Et là, je parle uniquement de mon point de vue. Là. Je vous donne mon opinion sur le livre « Imminent ». Vous pouvez lire, vous aurez certainement, certains des auditeurs auront certainement une vision différente de la lecture que moi j'en ai fait. Donc là, ça n'engage que mon opinion à moi. Ce Luis Elizondo, après avoir quitté le département de la Défense, là, quand le programme AETIP s'est terminé, tout ça, il a quitté éventuellement le département de la Défense. Il avait été muté, il était toujours dans le service du renseignement, mais à d'autres tâches. Il a donc quitté le département de la Défense. L'une des raisons aussi de son départ, il a martelé, mais dans quelle mesure c'est vrai, là, c'est un peu difficile. Tu as beau dire, moi j'ai quitté, si tu quittes demain matin Radio X, hein, tu peux accuser ton patron de tous les maux.
Ben oui.
On le sait pas. Là,
c'est le côté de la médaille que je veux exposer.
Voilà,
aussi.
C'est ça. T'sais. Et là, lui, il dit, ben moi, j'ai quitté le département de la Défense parce qu'après l'organisme AETIP, j'insistais auprès de mes supérieurs pour qu'on prenne la question des ovnis plus au sérieux. Puis, visiblement, ça ne les a pas intéressés. Donc, j'ai claqué la porte. C'est un peu le discours qu'il tient. Il va rejoindre, après son départ, ce que moi, j'appelle, et encore une fois, Ça ne mes propos ne sont que mes propos, là. Hein, c'est mon opinion. Il a rejoint ce que moi j'appelle la clique de la soucoupe volanterie américaine.
Okay.
Tout ce que l'on entend sur les ovnis, là, en fait, là, c'est toujours à travers le filtre d'une demi-douzaine de personnes. Tout ce que vous entendez. Dès que vous entendez une histoire sur les ovnis, grattez un peu, là, vous allez toujours retrouver derrière cette histoire-là des noms comme Jeremy Corbell, Christopher Millen, George Knapp, Gary Nolan, Leslie Keen, Tom DeLonge, qui était autrefois du groupe Blink-182, ça, je pense que c'est ça.
Okay.
Donc, qui est un ancien chanteur, il continue avec le groupe, mais il s'intéresse beaucoup à la question des ovnis. Ces gens-là forment la clique de la soucoupe volante. Et là, maintenant, ils ont un nouveau membre qui est Luis Elizondo. Donc, c'est la clique. Et cette clique-là contrôle toute l'information. En fait, à mon point de vue, c'est un agenda, je ne sais pas trop quel est leur agenda, mais clairement, il y a un agenda économique derrière ça. Ils sont sur toutes les tribunes, ils ont leurs propres émissions de télé, leurs propres émissions de radio, ça va bien. C'est une business qui marche bien. La soucoupe volante aux États-Unis, si tu fais partie de la clique, c'est quelque chose qui rapporte.
Tu deviens comme un influenceur ou ils ont vraiment des podcasts, comme tu mentionnes.
Ah oui, ouais, des podcasts. Il y a même une série qu'on peut suivre. Je crois que c'est à Historia, OVNI, le secret américain ou quelque chose comme ça. Et derrière cette production-là, c'est la clique.
Okay.
C'est eux, là, c'est Elizondo et compagnie. Là, donc c'est eux la même clique. Là. C'est un peu comme les gars qui creusent à Oak Island.
Oui.
c'est eux qui creusent, c'est eux qui tiennent le poste, c'est eux qui tiennent l'émission, c'est eux qui tiennent la
ouais,
caméra,
ouais.
C'est eux qui ont le micro. Ils trouvent pas de trésor, mais c'est payant à creuser. Okay, c'est un peu c'est de la même chose. On trouve pas de soucoupe volante, mais c'est payant d'en parler. Donc, ces gens-là forment ce que moi j'appelle la clique des soucoupes volantes. Et évidemment, comme on sait que Luis Elizondo était proche de ces gens qui s'intéressaient à la question des souvenirs, côtoyaient Bigolo et compagnie, on s'est dit que son livre devrait apporter des informations nouvelles et c'est d'une platitude là, mais déconcertante. D'abord, et là encore, c'est ma critique. Hein? D'abord, le livre reprend tous les thèmes qui font rêver les amateurs d'extraterrestres. Donc, si vous êtes de ceux-là, là, vous vous reconnaissez, là, il y a tout là-dedans. Roswell, les petits gris, la rétro-ingénierie, les soucoupes volantes.
C'est les mots clics.
C'est du putaclic. Là, hein? C'est les mots qui fait qu'on fantasme. Tout est là. Ça, il a trouvé, c'est la bonne recette. Si tu dis des affaires plates, ça ne marchera pas. Mais lui, il dit les affaires qui marchent bien. Donc, ça fait rêver. Tu lis ça d'une part à l'autre. Là. Et comme je le dis souvent, au pays d'Alice, tout est merveilleux. Donc, on est au pays d'Alice. Il nous raconte toutes ces histoires. Mais évidemment, quand tu arrives à la page de la fin, tu te dis, où sont les preuves?
Qu'est-ce que j'ai appris?
Il n'y en a évidemment pas. Et ça, je le répète, moi, je suis tellement tanné d'entendre ces gens-là nous saouler avec le discours. Là. Y a-tu un moment donné, je ne demande pas grand-chose, là, ça fait 80 ans que l'ufologie active existe. Y a-tu un moment donné quelqu'un qui va nous arriver avec un cheveu d'un extraterrestre, un mégot de cigarette d'extraterrestre? Une preuve! On n'en a pas, c'est du blabla, du papier, de l'encre. C'est rien que ça. Et c'est exactement le livre de Luis Elizondo. Donc, il nous raconte un peu sa carrière militaire. Hein, il y a eu quelques passages qui sont assez croustillants. Il raconte qu'il prend particulièrement plaisir à nous dire qu'il a été à un moment donné affecté à Guantanamo. Et il aimait beaucoup qu'on l'ait surnommé le tsar de la torture.
Oh mon Dieu!
Ouais, j'ai trouvé ça un peu étonnant, mais bon, c'est ça. On l'avait surnommé apparemment le tsar de la torture. Il nous raconte aussi des sornettes. Là. Il nous dit qu'il a même été membre du projet Stargate. Hein, projet Stargate, pour les gens qui nous écoutent, je rappelle, c'est un programme qui avait été mis en place dans les années 70 par les services de renseignement américains, particulièrement la NSA, pour faire de l'espionnage en utilisant des soi-disant voyants. Et là, Luis Elizondo nous dit, moi, j'étais membre de ça, puis ça marchait, mon affaire. Écoute-moi, là, je pouvais savoir qui faisait son Walmart où, là, tu sais, rien qu'en me concentrant, là. Puis là, il dit, c'est dommage, ça marchait tellement bien, mais bon, le gouvernement américain a mis la clé dans la porte en 1995. Ben, pourquoi ils ont mis la clé dans la porte en 1995? C'est pas parce que ça marchait tant que ça, hein. Quand ça marche, là, à mon grand-père disait tout le temps, si ça marche, touche-y pas, tu sais.
Ben, c'est
exactement ça. Si ça marchait, on y aurait pas touché. En fait, ça marchait pas. Dans le cas de Stargate, on est, les gens qui défendent Stargate sont toujours en train de nous dire que certains voyants, puis je le reconnais, moi-même j'en ai rencontré quelques-uns, je pense notamment un type qui s'appelle McMonagall que j'avais rencontré, ils ont tenu parfois des... on est ici dans l'univers de la parapsychologie, hein, de la voyance, de ce qu'on appelle aussi du remote viewing. On se concentre et on voit des cibles ailleurs. Certains de ces voyants-là ont obtenu des résultats intéressants, au-delà du hasard. Hein, parce que, bon, dans la parapsychologie, on détermine pas... il n'y a jamais du 100%, mais on... disons que l'échelle se fait... Est-ce que c'est comment je pourrais dire, significatif, pas significatif, très significatif, extrêmement significatif.
Dans l'échelle du hasard, là.
Non, c'est ça, c'est un peu de cette façon-là qu'on fonctionne. Et dans plusieurs cas, des voyants de Stargate ont donné des informations qui se sont révélées très significatives. Mais en revanche, ils en ont donné aussi qui étaient complètement pourries. Par exemple, Ingo Swann nous a décrit des bases sur la Lune, d'extraterrestres, des bases sur Mars. Bon, tu vois le genre un peu, là, on est dans le fantasme. Là. Et éventuellement, en 1995, le département de la Défense avait mis fin un terme au projet Stargate. En fait, les services de renseignement, la NSA, avaient mis fin au projet Stargate. C'était la DIA qui menait, en fait, qui était le chef, le responsable. La DIA, c'est le service de renseignement secret du département de la Défense. Ils ont mis un terme au projet Stargate parce que c'était trop aléatoire. Tu comprends? Des fois, il était bon, puis des fois, il n'était pas bon. Mais tu ne peux pas monter une opération militaire avec...
L'humeur des médiums.
Les doigts en espérant que le médium était bon aujourd'hui. S'il n'était pas bon, ben, il va avoir 300 morts, mais bon, on se reprendra la prochaine fois. C'est pour ça que Stargate a été abandonné. Donc, Luis Elizondo, il nous joue du violon en nous racontant ça. Et là, ben, évidemment, il revient sur les fameux vidéos dont on a parlé, qu'on entend au début. Et j'ai été surpris parce que tu dis, ce gars-là, il était proche de ce service-là. Mais non, quand il en parle, il te raconte encore des bobards.
Bon.
Il nous dit que le film, on voit l'objet qui apparaît à l'écran, il est très, très lumineux, très brillant sur l'image en infrarouge. C'est parce qu'il est très froid. Mais non, s'il apparaît très lumineux sur l'écran, c'est pas parce qu'il est très froid, c'est l'inverse. C'est parce qu'il est très chaud. Hein, on voit, c'est la source de chaleur que l'on voit. Il est même pas foutu de nous mettre les bons pilotes dans les bons avions. Hein. Quand il raconte ça, par exemple, il dit que le copilote qui était dans l'avion avec David Fravert, un type qui s'appelait Jim Slide, alors que Jim Slide était plutôt assis dans l'autre avion qui était piloté par Alex Dietrich. Tu comprends, il n'est même pas foutu de nous raconter cette histoire-là de manière cohérente. Et ensuite, ben, il reprend bien sûr tous les mythes qu'on retrouve à propos des extraterrestres. Donc, il va même à nous ressortir aussi des vieilles histoires d'ovnis qui datent des années 60 que tu peux trouver dans tous les livres, ces ovnis-là. L'affaire Zamora, l'affaire Machin, l'affaire un tel. Bon, il nous ressort ça, c'est du vieux réchauffé. Il va jusqu'à nous reprendre, hein, quand tu dis du réchauffé, là, c'est très réchauffé, il va même jusqu'à nous reprendre un truc qui avait été publié il y a de nombreuses années, un type qui s'appelait Philippe Corso qui avait publié un ouvrage en disant que beaucoup de notre technologie actuelle découlait de technologies extraterrestres qu'on avait récupérées, dont la fibre optique, les transistors et tout le reste.
Alors que c'est plus la technologie militaire?
Oui, mais quand tu fouilles un peu, tu découvres, tu arrives à remonter en amont, tu vois comment ça a commencé. Tu sais, les militaires sont pas arrivés du jour au lendemain avec la fibre optique. T'sais, tu vois qu'il y a eu 20 ans de développement avant dans des laboratoires, puis on a commencé à partir de rien. Donc, tout ça, c'est de la foutaise, ça a été clairement démontré, et je m'étonne qu'encore une fois, Luis Elizondo nous reprend ça. Bon, en fait, c'est du réchauffé. Il est très narcissique, hein. il est toujours en train de parler de lui.
Ouais.
Moi j'ai fait ça, moi je suis tellement bon. Il oublie évidemment pas ses petits amis. Là. Quand tu lis l'ouvrage, on entend parler de Mellon, Grush et tous les autres, là, de cette membre de sa clique de la soucoupe volante. Il nous parle des implants terrestres et il va. Et je sais qu'il reste 2 minutes, là, mais la cerise sur le Sunday, c'est quand il nous sort le Colin Elite. Il dit il y a des gens au sein du gouvernement qui sont comme au-dessus du gouvernement, qui contrôle toute l'information sur les ovnis. Et ça, dans les années 70 et 80, on l'appelait le MJ-12. Et c'était tellement connu qu'on l'a même un peu caricaturé dans la série X-Files. Hein, il y a notre pauvre agent, notre agent Fox Mulder qui enquête sur les ovnis. Puis il y a toujours un petit groupe là, dans l'ombre avec l'homme à la cigarette qui contrôle tout. Dans les années 70 et 80, ce groupe-là s'appelait le MJ-12. Et là, maintenant, on a un nouveau groupe qui s'appelle le Colin Elite. On en parle depuis quelques années. Eux autres, c'est des religieux qui ont découvert que les ovnis, c'est pas des extraterrestres, c'est des démons.
Oh non!
Quoi?
Mais c'est ça. Est-ce que c'est sectaire? La réponse est un peu oui.
Voilà, un peu. Et là, il dit, tout les autres, ils disent que c'est les ovnis, c'est démoniaque. Et là, il dit, c'est eux autres qui contrôlent à Washington l'information sur les ovnis, le Colin Elite. Ça, c'est le dernier grand fantasme des amateurs d'ovnis après MJ-12, puis les nazis qui vivent dans des bases souterraines en Antarctique. Là, maintenant, c'est le Colin Elite qui nous ressort ça. Bref, d'une platitude déconcertante, mais surtout, un livre qui n'apporte strictement rien. Là. Aucune preuve de rien du tout, du fantasme. 250 pages de moi et du fantasme, du réchauffé qui n'apporte strictement rien à la compréhension du phénomène des ovnis.
De là mon malaise avec les autobiographies, si on veut. Là.
Ouais, ben c'est sûr que c'est toujours le côté de l'histoire qu'on veut bien nous présenter. Là,
exact.
Mais on va se rappeler que Luis Elizondo, c'est le tsar de la tortue.
Ben oui. Juste pour ce bout-là, si vous êtes capable de le trouver quelque part sur les internets, ça peut valoir la peine d'avoir un peu plus de détails. Christian, je vois qu'il nous reste encore un petit 2 minutes, un petit extra 2 minutes. Je voulais absolument qu'on parle de la monnaie royale canadienne qui avait sorti une série de monnaies, de pièces de monnaie, différentes pièces de monnaie sur justement les UFO. Et oui. Si je ne me trompe pas, c'est la première où on a le profil du prince Charles dessus.
Oui, la première. Ouais,
c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais elle est très cool sur l'incident de Langenberg.
Oui, c'est ça.
Glow in the Dark.
Oui, toutes les pièces, en fait, sont glow in the dark. Dans le cas de Langenberg, pour rappeler aux gens, là, très rapidement, c'est un incident qui remonte à 1974, où un agriculteur avait observé 5 objets volants inconnus qui faisaient du surplace au-dessus de son champ pendant quelques minutes avant que les objets disparaissent dans le ciel. Et ça avait laissé des marques au sol. La GRC avait été contactée, on avait pris des photographies. Et cet événement-là n'a jamais été clairement expliqué. Et ça fait partie des grands classiques de l'histoire des ovnis au Canada, l'incident de Langenberg. D'ailleurs, ça avait suscité à l'époque tellement de tourisme sur le terrain de l'agriculteur qui s'appelle Edwin Fur. Hein? Langenberg, rappelons que c'est en Saskatchewan, c'est près de la frontière avec le Manitoba. Et l'agriculteur de l'époque, Edwin Fur, avait tellement détesté la quantité de touristes qui s'étaient présentés sur son terrain qu'il avait mis le feu au champ. Il a brûlé la partie du champ où il y avait les fameuses traces.
Il a brûlé les preuves.
Il a brûlé les preuves. Bref, cette histoire-là est demeurée et demeure encore aujourd'hui, 50 ans plus tard, inexpliquée. Il faut dire aussi qu'on a pas beaucoup d'informations. Il n'y a pas eu de carottage, il n'y a pas eu de prélèvement d'échantillons de sol ou végétaux. Hein. La GRC s'est rendue là. Un agent, Ron Mourier, s'est rendu là. Il a pris quelques photographies et puis il a rempli un rapport d'observation, puis c'est à peu près tout. Mais bref, l'affaire est restée un peu comme ça dans la culture populaire. Et la pièce est sortie il y a quelques jours. Elle est magnifique. C'est vraiment une très, très belle pièce. Mm. Elle est digne de ses prédécesseurs, hein, parce que les autres pièces qui ont été frappées avant sont tous aussi très, très jolies.
Ce sont des œuvres d'art, pour vrai.
Oui, et qui attire à la fois les amateurs de mystère, mais également les numismates. Hein. Simplement te rappeler que la première pièce qui a été frappée en 2018, à l'image d'un incident qu'on a appelé l'affaire de Falcon Lake, qui remontait à 1967, la pièce se vendait originalement 129 $ et aujourd'hui, elle circule dans sur le marché entre 3 000 et 4 000 $.
Hein, pour vrai, ça prend autant de valeur.
Donc, tu vois combien que... Donc, pour les numismates, c'est intéressant, ces fameuses pièces, parce qu'elles sont à la fois populaires, elles sont belles, mais également, elles sont très recherchées.
J'ai réussi à mettre la main sur un vieux 2 $ papier. Un vieux. Il n'est pas si vieux que ça, là, mais je ne suis pas sûr que ça va valoir autant que ce que tu viens de me dire.
Non, t'es mieux de t'acheter la pièce de monnaie OVNI que d'essayer de trouver le vieux 25 cents avec le 1967 avec comme le lynx là, dessus. Là,
je suis trop jeune, j'ai pas connu ça. Ça a disparu, les billets papier, avant que je sois consciente.
Tu sais, la pièce de monnaie de 67, elle valait 25 cents, puis aujourd'hui, elle en vaut 75.
OK, bon.
75 cents, hein, pas 60 $, 75 cents.
C'est un meilleur investissement.
Ouais, c'est un meilleur investissement que les pièces d'OVNI.
Ben, Christian Page, je te remercie encore pour l'émission de ce soir. On a des auditeurs qui nous ont mentionné que c'était difficile de nous réécouter en rediffusion, que ce soit sur Spotify ou encore sur le site web. Ça va être mis dans les prochaines minutes de mon côté, mais je vais passer le message à notre technicien à la station que l'écoute est difficile, on ne trouve pas les extraits. Donc, on va rectifier la situation pour la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Et Christian, on se retrouve lundi pour Suspect X à 22 h.
Absolument.
Bon week-end.
Bon week-end.
Bye.